Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des Créateurs d'avenir, l'émission des jeunes qui entreprennent leur vie. Comme chaque semaine, nous allons vous donner envie d'entreprendre en vous présentant le parcours de jeunes entrepreneurs qui réussissent ou qui ont réussi et en vous éclairant sur la création et sur la gestion d'entreprise. Mais avant de commencer, on va étudier le sommaire du jour. Alors tout d'abord, nous irons à la rencontre d'Antoine Gentil et de Julien Viau, fondateurs de Baby Speaking, qui combinent garde d'enfants et apprentissage des langues étrangères. Ensuite, Guillaume Arthus me rejoindra pour ses rubriques d'aide à la création et d'aide à la réussite, qu'on consacrera cette semaine aux sociétés de personnes et à la suite des bases du business plan. Et pour finir, nous reviendrons sur le parcours d'un entrepreneur de légende, et cette semaine, il s'agira de Richard Branson. Les Créateurs d'avenir, saison 1, épisode 2, ça commence maintenant. Alors je le disais en sommaire, on est cette semaine avec Antoine Gentil et Julien Viau qui nous parlent de baby speaking et c'est de la garde d'enfants en langue étrangère. Alors avant de voir un petit peu comment ça marche et comment ça a été lancé, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que ça vous est venu l'idée bah, déjà de vous associer et puis de monter une entreprise de garde d'enfants?
Alors, nous avec Julien, on s'est rencontrés à l'ESCP en master, donc en entrepreneuriat.
D'accord.
L'idée, elle est venue bah, de mon expérience, où moi, donc petit, j'étais expatrié avec ma famille aux États-Unis, à Dallas, dans le Texas, et avec donc mes trois petites sœurs. Quand on est rentré en fait en France, bon, on est tous revenus avec un excellent niveau de langue. Mes sœurs, pour le coup, qui étaient plus jeunes, qui avaient donc entre 3 et 11 ans à l'époque, sont revenus pour le coup bilingues. C'est des années plus tard donc que j'ai rencontré Julien et qu'on a creusé donc cette idée de bah, pourquoi ne pas proposer donc de l'immersion linguistique à domicile à travers donc de la garde d'enfants. On a creusé, réalisé que ça n'existait pas et donc on a créé bah, la société Baby Speaking.
C'est ça, quand vous êtes rentré à l'ESCP, vous n'aviez encore aucune idée de Baby Speaking, et c'est là que ça vous est venu. Ce n'était pas un projet développé pour.
C'est ça, c'est venu, c'est vraiment venu en cours et enfin, en y réfléchissant. Ouais.
D'accord, donc vous créez en 2009, c'est ça, finalement, la société. Il n'y a pas eu de difficultés majeures ou de problèmes pour trouver pour lever des millions d'euros
Eh bien, on avait, je sais pas, Julien, on n'avait pas vraiment besoin de millions d'euros.
Non, nous c'était important en fait quand on avait brainstormé déjà dans le master de partir sur des idées qui étaient réalisables. Et donc là c'est exactement ça, c'est du service et du service à la personne. Donc une mise de fonds qui est assez légère. Nous ça nous a permis de développer en fait une première version du site pour communiquer. Mais après tout s'est fait en fait en nous autofinançant complètement. Les premiers clients en fait ont amorcé la pompe et nous ont permis d'investir sur tous les moyens de communication après.
D'accord. Donc, maintenant qu'on a vu comment c'était créé, on va se concentrer un petit peu sur le produit entre guillemets Baby Speaking. Alors, c'est de la garde d'enfants en langue étrangère, ça je m'en doute bien. Mais c'est quoi, par exemple, comme langue vous proposez quoi?
Alors, déjà, ce n'est pas seulement de la garde d'enfants en langue étrangère, on a essayé vraiment de pousser le concept, vraiment d'aboutir quelque chose de très complet. Nous, au-delà donc de communiquer auprès d'intervenants, de les sélectionner, dans un second temps, donc on les forme. On a développé donc une méthode avec des experts en acquisition du langage avec qui on a travaillé, notamment Maria Kilstedt, qui est donc psycholinguiste, qui est maître de conférence à Nanterre et qui est affiliée à un laboratoire de recherche au CNRS en question de bilinguisme enfantin. Donc on a développé une méthode, c'est-à-dire à la fois donc des formations et des supports qui sont utilisés donc pendant nos prestations. Donc voilà, c'est vraiment de la garde d'enfants en langue étrangère couplée à une méthode d'apprentissage.
Oui, ça, j'ai vu sur le site qu'il y avait une mallette pédagogique qu'avaient les formateurs. C'est les formateurs, pardon. J'ai vu
Les baby speakers.
Les baby speakers, oui.
On leur remet effectivement une mallette qui est composée donc, de jeux, des idées d'activités, il y a même des recettes de cuisine, des chansons, il y a des images, des choses à découper, etc. Enfin, vraiment une sorte de petit pack d'activités qui est adapté donc, à l'âge de l'enfant. Et le but, c'est vraiment bah, de faire des choses, de jouer à des jeux avec l'enfant, tout ça en anglais ou en allemand ou en espagnol. Enfin.
Et qu'est-ce qu'ils font les enfants qui sont gardés par des baby speakers, donc par rapport à une garde d'enfants classique, surveillance
Alors, bah, y a un aspect justement vraiment qui est de garde classique. Souvent, ils vont les chercher à la sortie de l'école. Ils les ramènent ou ils vont au parc. Il y a le moment enfin, du goûter, enfin, vraiment chose que, disons, tout baby speaker fait. Après, nous, on a vraiment essayé d'encadrer et d'encadrer, et notamment par les formations qui sont données aux baby speakers, d'encadrer un moment qui généralement se situe entre le goûter et le moment où on prépare le coucher, où on va passer à table. Un moment vraiment d'apprentissage d'une langue étrangère. Donc souvent c'est l'anglais. C'est un temps qui va durer, ça dépend de l'âge des enfants, mais ça va durer entre 20 minutes et 45 minutes. Et le but, c'est d'utiliser donc la mallette d'activités qu'on remet à nos baby speakers à travers donc des chansons, des images. On a même, qu'est-ce qu'on a ? On a un jeu de cette famille qui permet d'apprendre father, mother, etc. On a des chansons, des classiques anglais et américains. On essaie d'avoir même des activités qui peuvent tourner un peu sur les thèmes de l'année, que ce soit Christmas, Thanksgiving, Thanksgiving, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la mallette? Et puis après, si sur les mercredis, par exemple, toute la journée, on peut avoir des activités sympas comme faire un gâteau, faire une tarte. En plus, c'est très sympa pour les parents qui rentrent le soir quand il y a quelque chose au four. Voilà.
Un cheesecake, quoi. Pour rester à la couleur.
Exactement.
Et tout ça se fait en anglais, c'est-à-dire que la balade au parc, etc., tout ça se fait en anglais, parce que ça doit être un peu dur pour des enfants de 3 ans ou de 4 ans.
Alors ça fait partie des points sur lesquels nous, on passe vraiment du temps en formation. Et c'est les questions qui reviennent tout le temps, c'est comment je fais pour lui parler tout le temps anglais, alors que souvent ils sont grands débutants, voire ils ne comprennent rien au début. Ce qu'il faut savoir, et donc ça c'est vraiment... lié à la recherche et au fait qu'il soit jeune, c'est prouvé donc avant 7 ans finalement l'enfant apprend une deuxième langue comme si c'était sa première langue. Il n'y a pas de il repousse pas l'apprentissage et il repousse pas cette nouvelle langue où finalement nous scientifiquement on dit passer 7 ans, mais bon, disons passer l'âge adulte, pour nous c'est beaucoup plus difficile d'apprendre une nouvelle langue. Donc finalement, même avec donc un baby speaker qui va ne parler que anglais, ça, évidemment ça va être difficile et un peu déboussolant au début, mais finalement les choses vont très vite et nous on a des cas d'enfants en même 3-4 semaines où ça les dérangeait pas que le baby speaker leur parle anglais. Évidemment ils comprennent pas tout, mais on va dire qu'ils comprennent pas grand chose, mais ça les dérange pas et ils commencent à répondre en anglais,
parce qu'au début ils répondent en français. C'est...
oui. Enfin, oui, souvent, oui. Oui, oui, et c'est vraiment une sorte de stratégie des petits pas où c'est mot par mot. Non, dans ce cas-là, tu dis thank you, et puis au début, on se dit bonjour comme ça. Et vraiment, évidemment, ça prend du temps, ça prend des mois et des mois après réussir une conversation en anglais, mais disons que les choses vont rapidement, à petite échelle, mais vont assez rapidement.
D'accord, donc c'est adapté à l'âge de l'enfant, donc on peut être accompagné par un baby speaker à peu près à n'importe quel âge, c'est ça?
À peu près à n'importe quel âge. La plupart de nos familles font appel à nous dans les sorties d'école.
Oui.
Donc la plupart des enfants dont on s'occupe ont entre 2 et 10 ans.
D'accord. Globalement. Donc concernant le prix de ce produit, qui est plutôt formateur, innovant, etc., j'ai vu qu'il y avait des avantages.
Alors oui, en fait, on est donc une entreprise agréée dans le service à la personne. Et donc, comme beaucoup le savent, il y a un principe de défiscalisation qui est donc sur le tarif proposé. Il y a 50% d'abattements fiscaux qui donnent droit à nos familles de déduire la moitié de tout ce qui est facturé. Et sachant que ça c'est quelque chose qui va rester, il y a eu pas mal de questions l'année dernière sur est-ce que ça va perdurer ou pas cette aide, et oui pour l'année 2011 en tout cas de manière assurée cette aide résiste.
Bah tant mieux. Et donc sur un ordre de prix, ça représente combien pour une famille de faire garder son enfant avec un baby speaker?
Alors faut savoir qu'en fait il y a deux principes. Il y a l'exonération fiscale de 50% et la plupart des familles en fait qui font appel à nos services font appel également aux aides de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et donc ce qui diminue de manière assez importante le budget. Il faut savoir qu'une garde de 10 heures par semaine, qui est à peu près la moyenne de nos clients, donc qui est lundi, mardi, jeudi, vendredi, 2h30, donc ça fait 40 heures par semaine, ça leur revient à peu près à 300 euros, donc après aide de la CAF et défiscalisation. Donc ce qui est un prix tout à fait abordable, et c'est pour ça qu'en fait un certain nombre de clients trouvent un intérêt à venir donc chez nous plutôt que chez une société qui propose des gardes d'enfants exclusivement en français.
Juste pour finir sur la CAF, et ce qui est important de savoir, c'est que c'est sans condition de revenu. C'est-à-dire que même une famille qui gagne plutôt bien sa vie a le droit aux aides de la CAF qui sont de l'ordre de, ça dépend l'âge des enfants, mais de l'ordre de 300 euros par mois en moyenne.
Et comment vous trouvez vos clients? Parce que c'est un point difficile quand on démarre aussi, de réussir à trouver ses premiers clients.
Dans un premier temps, on a pas mal fait jouer le réseau de nos écoles et puis autour de nous. Et puis ensuite, je dirais que le concept a quand même pas mal pris. Il y a eu à la fois du bouche à oreille, la presse a un petit peu parlé de nous, et puis les globalement, les gens, je dirais, nous trouvent sur Internet.
D'accord. Mais il faut aussi recruter les clients, mais il faut aussi recruter les intervenants. C'est ça, les baby speakers, parce que ça doit être dur aussi à trouver, parce qu'ils sont tous natifs, c'est ça?
C'est ça. C'est vraiment le point, disons, enfin le plus difficile ou disons le plus important dans ce qu'on fait. Nous, on a vraiment développé un savoir-faire à la fois donc pédagogique, c'est ce que je disais sur les experts en acquisition du langage avec qui on a travaillé, et on a également développé un savoir-faire logistique. On est en lien avec un bon nombre d'universités, on communique de manière vraiment massive auprès d'intervenants. Pour donner un chiffre, sur l'année 2009, on a eu plus de 4000 candidatures. Sur l'année 2010, on a eu plus de 7000 candidatures. Et en bout de course, en 2010, on embauche 150 personnes. Donc il y a vraiment une sélection et un savoir-faire là-dessus qu'on a développé. Et donc ce que je disais sur cet aspect logistique qu'on a développé, derrière, chose sur laquelle on a investi et on continue à investir de manière vraiment importante, c'est en ressources humaines, en moyens humains, nous, en interne. Aujourd'hui, on est une dizaine dans les bureaux du monde qui gère à la fois de présélection, sélection, formation. Et ça demande vraiment des moyens humains qui sont importants et sur lesquels il faut pas lésiner.
D'accord. Et c'est quoi vos horizons à quelques années?
On en parle plus ou moins tous les jours. Nos horizons là, c'est de démarrer dans d'autres villes en Provence. Donc on part sur trois villes qui sont Lyon, Lille et Aix. Donc on commence maintenant pour pouvoir vraiment proposer de manière très opérationnelle nos services à partir de septembre pour la rentrée 2011. Donc l'année prochaine, ça va être développer ce qu'on fait à Paris dans d'autres villes. Et puis pour les années à venir, on a beaucoup d'autres idées qui gravitent autour de l'apprentissage de langues, sur d'autres supports, en utilisant d'autres canaux. On va dire qu'il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là.
En effet, il y a quelques problèmes avec les langues étrangères en France. Et si on parle plus d'entrepreneuriat en général, je pense que comme vous, voilà, quand on y a goûté, même si dans 5-10 ans il y a une autre aventure à démarrer, c'est quelque chose qui va toujours rester, non?
Oui, ça c'est, je pense que c'est une chose qu'on a appris, c'est qu'on veut continuer à entreprendre, que ce soit Antoine ou moi. Et puis voilà, donc soit entreprendre de nouveaux projets, mais déjà dans le sein de Baby Speaking en soi, à chaque fois c'est une nouvelle ville, c'est un nouveau projet. Donc là, on a une dizaine de projets en tête qui vont partir très vite. Je pense que quand on a goûté à ça, exactement, on n'a aucune envie d'en sortir. Je pense que le premier objectif, c'est de se payer, d'en vivre. Et puis après, le reste, c'est vraiment que du plus.
C'est fait ça au moins.
Tout à fait. Ça commence exactement à être fait. Ça a été, pendant longtemps, on a travaillé sans se rémunérer et justement en rémunérant des gens parce que c'est comme ça qu'on se développe. Et là, le passage est passé, et donc maintenant, c'est essayer de faire plus, développer l'entreprise à 100% et partir sur un nouveau projet.
D'accord, donc on parle d'entrepreneuriat, vous avez aussi participé à quelques concours d'entrepreneuriat, quelques prix, c'est ça?
Ouais. On a gagné le concours CREAC, c'était le premier prix qu'on a gagné, c'est organisé par l'Ordre des experts comptables. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a remporté? On a remporté le concours européen d'entreprises innovantes. Ça, c'est organisé par la Jeune Chambre économique française. Et enfin, on a gagné le concours Petit Pousset. Finalement, ces différents prix, ça nous a apporté de la notoriété. Derrière, ça a été pas mal relayé dans la presse, dans les médias. Et derrière, même si là, ce que ça nous a apporté, au-delà de une sorte de caution, bah, par exemple, enfin, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des clients, c'est même des personnes à recruter, à travailler avec nous dans les bureaux. C'est quelque chose de rassurant. Bon, on se dit que bah, la société, le concept plaît et que la société va, enfin, va quelque part ou disons, disons le vent derrière soi.
C'est vrai que ça légitimise beaucoup ce qu'on fait. La première difficulté quand on recrute, c'est qu'on n'est pas connu. Baby Speaking est encore une jeune entreprise. Et c'est vrai que c'est comme un agrément pour les gens qui travaillent pour nous de se dire, OK, il y a des personnes extérieures qui reconnaissent ce qu'ils font, c'est bien fait. Il y a un principe innovant. Enfin, c'est vrai que ça, on va dire que ça contextualise beaucoup ce qu'on fait et rassure les gens qui travaillent avec nous.
Et c'est vrai que ça,
c'est vraiment à faire, en tout cas en phase de démarrage d'entreprise. C'est aussi bien pour crédibiliser et puis ça permet de se remettre en question. De manière récurrente, et c'est, on dirait que c'est un des moteurs qu'il faut garder en phase de création.
D'accord, donc on conseille à tous les entrepreneurs de remplir leur dossier pour.
Permet de formaliser vraiment ce qu'on a en tête et de le refaire tous les 2-3 mois, c'est très bien parce qu'on voit comment les choses évoluent et on remet sur papier des dizaines d'idées qu'on peut avoir à la semaine.
D'accord, et d'autres conseils pour ceux qui démarrent, des pièges à éviter aussi peut-être?
Ça, c'est lié à notre façon et la vision qu'on avait quand on a créé. Et on revient donc là au début sur le besoin de financement. Je pense que quand on crée une première entreprise, qu'on est jeune, il faut vraiment essayer de vendre quelque chose qui est vendable, prouver à petite échelle que ça marche, qu'on trouve des clients. Et après, les banques, je pense, peuvent nous suivre. Nous, on va commencer à justement faire un tour des banques. Et là, on va dire qu'on commence à être crédible, l'entreprise est rentable, donc on peut faire appel à du financement externe. Mais peut-être une erreur qu'il peut y avoir, c'est d'aller à la course, à la levée de fonds, à l'endettement, et parce qu'après on a des obligations, on parle d'argent, et donc prouvons à toute petite échelle que ce qu'on fait c'est bien, ça marche, et après allons à la chasse. Et je pense que les gens sont prêts à suivre si on leur prouve par A plus B que ce qu'on fait est bien fait.
Et puis même maintenant il n'y a plus de capital minimum, donc c'est pas la peine de partir à la course de
exactement
des 38 000 euros pour pouvoir.
C'est l'avantage du service et du capital à 1 euro, les deux cumulés, pour se débrouiller.
Une recommandation nous qu'on nous avait donnée en fait en cours et qu'on aime bien reprendre, c'est un peu la stratégie de l'échec, c'est passer du temps sur comment faire pour couler notre boîte en fait. Et souvent en faisant ça, on arrive à trouver justement des solutions à des problèmes qu'on avait, mais en prenant complètement la chose à l'envers. Et ça, c'est un truc qu'on peut se poser de temps en temps quand on crée une boîte comme question, c'est comment faire pour me planter. Est-ce que c'est une mauvaise qualité du service, est-ce que c'est un mauvais recrutement? Et en fait, en répondant et en trouvant le critère déterminant, bah, déjà, on trouve le premier objectif à atteindre. Et c'est une bonne façon de se poser des questions.
D'accord. Et donc, dans l'ensemble, le fait de faire une formation spéciale entrepreneuriat plutôt que se spécialiser ailleurs, ça reste quand même un énorme atout pour entreprendre.
Oui, je pense. Et en fait, nous, on n'avait pas beaucoup travaillé avant, on n'avait pas une grosse expérience professionnelle avant. On était avec des gens qui avaient travaillé beaucoup plus longtemps pour le coup. Et en fait, pour tout le monde, ça a été extrêmement bénéfique. On se retrouve pendant 6-8 mois avec des gens qui ont la même passion. Il y a des idées qui fusent dans tous les sens. Et à côté de ça, donc, on apprend à brainstormer. Et c'est pas si facile que ça de réfléchir à des concepts et d'en créer dans tous les sens. Après, on apprend à les structurer et puis enfin, on apprend à les développer et avoir une première base pour se lancer. Donc, en termes de projets, ça nous permet vraiment de concrétiser les projets et ça, c'est des choses qu'on va garder après toute notre vie pour de nouvelles étapes. Quoi.
Bon, ben, merci beaucoup et bon succès en 2011 pour Baby Speaking. Je sais pas, des nouvelles antennes ouvertes, c'est ça?
C'est ça. Donc, bientôt, Lille, Lyon, enfin, Lyon, c'est fait, Lille et Aix. Voilà.
Merci beaucoup, bon courage.
Merci, merci beaucoup et bon courage.
Retour en plateau après cette interview pour l'aide à la création. Et cette semaine, je le disais dans le sommaire, Guillaume, tu vas nous détailler les régimes des sociétés de personnes.
Alors effectivement, donc, je vais parler aujourd'hui des sociétés de personnes et en particulier donc, l'entreprise individuelle qui représente 75% de la création d'entreprises en France en 2009. Donc c'est tout de même quelque chose d'assez conséquent. Alors je rappelle pour ceux qui nous rejoignent cette semaine que dans le cadre de la société de personnes, l'entreprise n'a pas de personnalité juridique. Par conséquent, le dirigeant est indéfiniment responsable sur ses biens personnels des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle.
Oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire que si j'ai des dettes assez importantes, je peux perdre ma maison, ma voiture et à peu près tout ce que je possède.
Voilà. Alors, bien sûr, il est possible en fait de protéger ses biens fonciers, donc comme tu l'as dit, son logement ou même un terrain, si ce dernier n'est pas utilisé dans le cadre professionnel. C'est-à-dire, si dans votre habitation, vous avez un bureau que vous utilisez pour votre activité, vous ne pouvez pas protéger ce bien. Pour bénéficier de cette protection, vous devez faire une déclaration d'insaisissabilité devant notaire. Alors, bien entendu, il ne faut pas oublier que certains créanciers, par exemple les banques, vont vous demander de mettre en garantie vos biens pour vous accorder un prêt. Donc, on voit donc bien ici qu'il y a des risques pris. On voit bien ici que les risques pris par les dirigeants des sociétés de personnes peuvent être vraiment très importants.
Alors, pourquoi on continue à choisir, tu nous disais 75% de la création d'entreprise, pourquoi on continue à choisir des structures aussi dangereuses?
Eh bien, en fait, ça va être pour la souplesse de gestion. Il faut savoir qu'il y a relativement peu de contraintes légales pour les entreprises individuelles en comparaison aux sociétés de capitaux en ce qui concerne les organes de gestion. Et donc, c'est d'autant plus vrai dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur. Il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur a connu un très gros succès en 2009 puisque 75% des entreprises individuelles se sont faites sous le statut d'auto-entrepreneur. Donc la moitié des créations d'entreprises en France sont faites par des auto-entrepreneurs. Alors pourquoi ce succès finalement? Eh bien, ça va être la simplicité des démarches administratives. C'est ça qui a séduit. L'auto-entrepreneur, sauf dans le cas d'une entreprise artisanale, n'a pas l'obligation de s'immatriculer au RCS, le registre des commerces et de sociétés. Donc, ça va vraiment être très simple pour l'auto-entrepreneur de créer son activité.
Et gratuit.
Et gratuit, voilà. Ce qui est tout de même un avantage. Ensuite, en ce qui concerne la déclaration et le paiement, donc des cotisations et contributions sociales d'une part et du paiement de l'impôt, eh bien, ça va être très simplifié par le régime micro-fiscal et micro-social simplifié. L'auto-entrepreneur doit faire une déclaration trimestrielle ou mensuelle de son chiffre d'affaires. Et c'est sur ce chiffre d'affaires, dans cette déclaration, que vous calculez les montants des charges sociales et les impôts que vous devez. Alors, en ce qui concerne l'imposition, elle va varier de 13 à 23,5% en fonction de votre type d'activité. Mais contrairement aux impôts facturés aux sociétés de capitaux, celles-ci ne vont pas être calculées sur les bénéfices, mais bien sur le total des ventes, donc sur votre chiffre d'affaires.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, un auto-entrepreneur, s'il fait 10% de marge sur des produits, sachant qu'il paye 13% de cotisation forfaitaire, même s'il vend des millions de produits, il perdra de l'argent.
Voilà, c'est ça. Donc le statut d'auto-entrepreneur concerne plutôt le lancement d'activité, puisque le chiffre d'affaires est très nettement limité, à savoir 80 300 de chiffre d'affaires pour les activités d'achat et revente et 32 100 pour les prestations de services et les activités libérales.
On est sur des chiffres annuels là, c'est ça?
Voilà, sur les chiffres annuels de chiffre d'affaires. Donc, en tant que jeune entrepreneur, vous pouvez également bénéficier en même temps d'une exonération ACRE. Alors pour faire simple, il s'agit d'une diminution des charges sociales sur vos... Mais nous reviendrons sur les conditions d'éligibilité à l'ACRE prochainement, car il s'agit d'une mesure dont tous les jeunes de moins de 25 ans peuvent bénéficier.
Je pense qu'on a eu une bonne vision sur les avantages du statut d'auto-entrepreneur qui, comme tu le disais, peut être utilisé en lancement de société parce qu'après, c'est toujours possible de passer vers une, entre guillemets, vraie société.
Ouais.
Voilà. On va peut-être parler des autres sociétés de personnes puisqu'il n'y a pas que l'auto-entrepreneur quand
Exactement.
Même.
Exactement. En fait, je voulais revenir sur l'entreprise individuelle. En fait, c'est le statut des commerçants et des artisans de France. L'entreprise individuelle, ce sont souvent pas des sociétés proprement dites, puisque leur inscription au RCS, le registre des commerces des sociétés, n'est pas obligatoire. C'est un statut qui va être réservé aux créations de petits commerces, car les taux d'imposition sont largement supérieurs à ceux des sociétés de capitaux, mais la souplesse de gestion est un avantage. De plus, ce n'est pas l'entreprise qui va payer les impôts, mais bien l'entrepreneur qui les paye sur sa déclaration de revenus. Donc en fait, dans le cas d'une entreprise individuelle, c'est l'impôt revenu, l'IR, qui s'applique et non pas l'IS, l'impôt société. Alors, on ne va pas aborder dans cette rubrique les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif, les SNC, qui sont des statuts très particuliers et réservés à des entrepreneurs qui ont vraiment des besoins très spécifiques. Certains considèrent l'EURL comme une société de personnes puisqu'elle est également constituée d'un associé unique.
Et oui, mais EURL, il y a quand même responsabilité limitée. Au bout, juridiquement, ça reste une société de capitaux, n'est-ce pas?
Exactement. Oui.
Et donc, on en parlera la semaine prochaine quand on détaillera toutes les sociétés de capitaux. Allez, on va passer à l'aide à la réussite. Avec un beau marteau-piqueur en arrière-plan. Si, c'est pas beau. C'est beau, Boulogne. C'est beau, le périphérique.
C'est beau, Boulogne.
On va continuer à parler du business plan. Alors, la semaine dernière, tu nous avais présenté un petit peu tout ce qui devait contenir. Et là, on va commencer pour quelques épisodes à détailler un peu toutes ces rubriques. On y va ?
On est parti. Alors aujourd'hui, on va parler donc de l'executive summary en premier lieu. Donc on l'a vu, c'est la synthèse en fait de l'ensemble des informations qui vont être présentes dans votre business plan. Alors si vous voulez, c'est un petit peu la fiche de présentation de votre entreprise et ça doit aller vraiment à l'essentiel de l'information concernant votre projet. On ne va pas s'attarder dessus vu qu'on va détailler bien tous les autres éléments du business plan. Et donc on passe directement à la seconde rubrique, à savoir la description de votre projet. Tout d'abord, donc, la partie doit parler de l'historique de l'entreprise, des produits et des services qu'elle propose, et également de l'évolution de son offre. Il s'agit ici en fait de présenter factuellement ses réalisations. Le porteur de projet doit ici présenter la stratégie qui a été effectivement suivie par l'entreprise depuis l'idée initiale. Si elle existe déjà depuis longtemps, si elle exerce déjà une activité, vous devez présenter les chiffres clés de votre projet, à savoir le chiffre d'affaires, le résultat que vous avez obtenu, le retour sur investissement, etc. Alors dans cette rubrique, on va également retrouver une présentation brève des principaux acteurs du marché, l'évolution globale des ventes et des bénéfices, et enfin les prévisions sur le marché à venir. Il s'agit en fait d'identifier l'entreprise, ses forces et ses faiblesses, et les menaces et opportunités du marché. En anglais, on va parler de SWOT.
Alors SWOT, on va peut-être un petit peu préciser, hein, tout le monde n'a pas comme livre de chevet des livres de marketing des éditions Erol, hein. Alors SWOT, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Donc on va analyser les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces pour l'entreprise. On viendra sur ce schéma-là parce qu'il y a pas mal à en dire.
Effectivement, c'est un bon modèle d'analyse. Donc finalement, pour écrire cette rubrique, l'entrepreneur est amené à se demander si la stratégie qu'il a réellement appliquée est cohérente avec le marché. La seconde partie a concerné la description de votre produit ou service. Vous devez vous poser la question de ce que vous proposez réellement à vos clients. Vous devez donc aller faire un bilan des caractéristiques réelles de votre produit, pas les caractéristiques que vous avez imaginées à la base, mais bien les caractéristiques réelles, qu'il s'agisse donc d'avantages ou d'inconvénients. Donc vous devez mettre en avant ce qui vous différencie de vos concurrents, le meilleur exemple étant en général le prix. Dans tous les cas, et c'est une règle d'or dans le business plan, il ne faut pas oublier d'évoquer ses faiblesses parce que lorsque votre investisseur potentiel lira votre business plan, eh bien il aura un œil critique et cherchera à identifier les faiblesses du projet. Il est donc préférable de les lui présenter directement pour établir une future relation de confiance. Vous pouvez également profiter de cette rubrique pour mettre au clair les pistes de développement des produits et services que vous proposez. Les investisseurs ont besoin de savoir ce à quoi vous avez pensé pour demain.
Alors là, tu nous parles d'investisseurs, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour son banquier.
Exactement.
C'est vrai pour, les concours qu'on va faire. C'est vrai pour tout.
Oui, exactement. Alors, la rubrique suivante concerne le marché de votre entreprise. Alors, il s'agit d'une des parties les plus difficiles à faire parce que l'entrepreneur va devoir convaincre l'investisseur qu'il va pouvoir faire un chiffre d'affaires prévisionnel en prenant en compte les possibilités du marché, mais également la présence de la concurrence. Alors en premier lieu, il va falloir présenter vos clients. Qui sont-ils et pourquoi achètent-ils vos produits? Quels sont leurs critères de choix? Est-ce que c'est le prix, la qualité, les services associés? Donc vous devez également présenter la liste de ces clients et prospects qui ont acheté ou veulent acheter chez vous. Et n'oubliez pas de dire pourquoi finalement ils veulent venir chez vous. Enfin, il faut également parler de ce qui fâche, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu de votre offre et les raisons pour lesquelles ils n'en ont pas voulu. Vous l'avez compris, vous devez ici identifier le profil type de vos clients potentiels et comparer leurs attentes avec ce que vous proposez. Alors bien sûr, tous les points positifs seront un plus pour votre produit et pour votre projet et les points négatifs ne seront pas si négatifs que ça puisque ce seront plus des pistes d'amélioration de votre offre que des points négatifs. Les investisseurs verront que vous savez où en est le projet et comment l'améliorer, ce qui est une très bonne chose pour vous.
Eh ben oui.
et voilà.
Et en second lieu,
vous devez parler de votre marché et de ses principaux acteurs. Vous devez les décrire, mais surtout vous devez les évaluer. Vous devez estimer en fait la taille actuelle du marché, sa croissance sur les 3 prochaines années. Alors il est tentant de surévaluer le marché, c'est souvent ce que font les entrepreneurs, mais il faut savoir que si l'investisseur a un doute sur l'évaluation
sur son potentiel.
Alors, il faut savoir Mais il faut savoir que si l'investisseur a un doute sur l'évaluation et en particulier sur le potentiel de croissance du marché, il peut tout simplement abandonner votre business plan et tout le reste de votre proposition. Plus important encore, il vous faut comparer votre produit à celui de vos concurrents. Vous devez faire un bilan des forces et faiblesses de votre produit par rapport à celui des autres. Et n'hésitez pas à fournir les sources que vous avez utilisées pour analyser la concurrence. Les investisseurs vont s'attarder particulièrement sur cette rubrique pour une raison simple. Si le marché est saturé par les concurrents ou si vous ne vous différenciez pas suffisamment, vous avez un risque de ne pas faire votre chiffre d'affaires prévisionnel. Pour conclure, vous devez donner les raisons pour lesquelles les clients se fournissent chez vos concurrents et comment vous allez faire pour leur prendre des parts de marché.
Ouh là là, leur prendre des parts de marché. On va commencer à dériver sur l'étude de marché.
Exactement,
là.
Ouais.
On est déjà bien au-dessus du temps habituel pour cette rubrique. Alors, ce que je te propose, c'est que l'étude de marché, on y revienne dans quelques semaines.
Voilà, on va y revenir quand on aura fini de dérouler toutes les rubriques du business plan.
Et dernière rubrique de cette émission, on va aborder le parcours d'un entrepreneur mythique. Et cette semaine, on va parler de Richard Branson, ou plutôt Sir Richard Branson. Bon, bien entendu, dans ce que je vais dire, il y a beaucoup de légendes. Mais en tout cas, il y a un point qui ne peut pas être contredit, c'est que Branson est le seul entrepreneur à avoir réussi à construire une marque aussi universelle que peut l'être Virgin.
Alors, je pense que juste avant de continuer, on pourrait expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une marque universelle.
Eh bien, une marque universelle, c'est une marque qui est légitime pour lancer n'importe quel produit. Si McDonald's, qui pourtant est l'une des entreprises les plus puissantes au monde, se décide demain de faire des restaurants de sushi, ils vont se planter. Comme lorsqu'ils ont lancé la McPizza dans les années 80. Alors que Virgin, non. Virgin Sushi cartonnerait, tout comme s'ils lançaient, je sais pas, des vêtements ou des timbres postaux. Et c'est là que Branson est un génie. Il a réussi à imposer sa marque comme légitime sur quasiment tous les marchés. Les préservatifs, les voyages dans l'espace, les banques, et la liste est trop longue pour la citer.
L'objectif de cette rubrique étant de voir les débuts des entrepreneurs. Alors comment Branson est devenu Sir Branson?
Alors, il en parle dans Losing My Virginity, son autobiographie, que d'ailleurs vous devez vous empresser de vous procurer si les livres anglophones ne vous font pas trop peur. Et donc, dans ce livre, il raconte qu'il se rend assez vite compte que l'école, c'est pas fait pour lui, quoi. Il va se mettre à faire les 400 coups et à tenter de vivre des expériences plus intéressantes, selon lui, que rester à étudier le français ou les mathématiques. Et son proviseur lui dira d'ailleurs toujours qu'il finira soit millionnaire, soit en prison. Ce qui, au passage, m'a toujours été répété par beaucoup de mes professeurs, dont Yann Rondeau, s'il nous écoute ce soir.
On peut faire les deux à la fois, regarde Madoff.
Eh oui.
Mais bon, plus sérieusement, comment il a commencé en tant qu'entrepreneur?
Alors, il a commencé très très tôt. Alors que moi, j'étais encore tranquillement en train de revendre les cartouches de Pokémon bleu ou de Pokémon rouge dans la cour de mon école. Lui, il se lance directement dans les investissements à long terme. Juste après Noël, il demande l'autorisation à ses parents de replanter les graines des sapins de Noël dans leur jardin pour pouvoir attendre aux fêtes de fin d'année et les revendre. Bien entendu, ce sera un échec. Et puis un peu plus tard, il va se lancer avec un ami dans l'élevage de perruches, donc encore un investissement à long terme. Bon, évidemment, il a fait fortune avec aucun de ces deux business, mais ça va déjà lui donner une envie d'entreprendre qui va le pousser à arrêter les études à 16 ans pour lancer un magazine étudiant qui va s'appeler Student et qui marchera plutôt pas mal. Et quand à 19 ans, il se lance véritablement dans la vente de disques par correspondance, sous la marque Virgin, il utilise son magazine pour en faire la pub, bien entendu. Là, c'est son premier vrai succès entrepreneurial et il va gagner des dizaines de milliers de livres en quelques mois. Et premier gros problème de son aventure entrepreneuriale, quelques mois après la création de Virgin, il va y avoir une grève postale énorme qui va paralyser l'Angleterre. Alors évidemment, il ne peut plus livrer ses clients, il n'a plus de chiffre d'affaires, plus personne ne lui fait de commande. Et lui, il va saisir ça comme une opportunité, et c'est là qu'il va ouvrir le premier vrai magasin qui a fait la renommée de Virgin sur Oxford Street à Londres.
Et donc c'est à partir de là qu'il a construit son empire et est devenu milliardaire?
Ah, pas exactement, parce que dans l'aventure Virgin, il avait juste oublié de déclarer la TVA aux impôts et aussi les revenus de sa société. Donc il va faillir finir en prison, ce qui aurait confirmé la prédiction de son proviseur.
Comme quoi?
Et pour en réchapper, il va devoir payer une amende de 53 000 livres, ce qui représente, avec la fluctuation des monnaies, évidemment plusieurs centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Et donc il se retrouve quasiment sur la paille. Pour rembourser une telle dette, la plupart des gens chercheraient un emploi, ou tout du moins une activité commerciale. Lui, non. Il va décider de se diversifier. Il va louer un manoir dans la banlieue de Londres et il va commencer un studio d'enregistrement. Et c'est un véritable succès, puisqu'au bout de 2 ans, alors qu'il a toujours que 24 ans, il va réussir à faire signer des artistes comme Billy Idol ou les Sex Pistols. Et c'est véritablement là que va débuter l'Empire Virgin. À partir des années 80, il va se lancer sur quasiment tous les marchés et attaquer tous les monopoles d'État anglais, comme l'aérien avec British Airways, les trains ou l'électricité, ce qui le fera encore moins aimer du pouvoir, qui n'avait déjà pas trop apprécié, qui lance les Sex Pistols et leur chanson God's Chef de Queen, qui dit à peu près que la reine est inhumaine de méchanceté. Bon, le pouvoir le pardonnera, et puis la reine le nommera même sœur en 2000. Bon, bien entendu, on n'a pas le temps de vous détailler toute sa vie, mais je peux que vous conseiller d'en apprendre un peu plus sur sa vie, soit en lisant Losing My Virginity, son autobiographie en anglais, ou en lisant Richard Branson, 10 leçons iconoclastes pour réussir, la version française.
Donc tous les livres en fait, qui seront cités au cours de l'émission donc, seront disponibles sur notre site internet pour vous les procurer directement sur www.lescreateursdavenir.com.
Tout à fait. Et pour conclure, même si j'ai pu faire des parallèles dans cette chronique entre ma vie et celle de Branson, j'ai pas la prétention de réussir comme lui en affaires. Mais tout du moins, j'ai la prétention d'affirmer que s'il y a une seule leçon à retenir de toute son aventure entrepreneuriale, c'est vraiment de saisir toute opportunité qui se présente. La vie est largement trop courte pour s'ennuyer ou pour ne découvrir qu'un seul métier.
Effectivement, c'est un petit peu notre règle d'or pour les créateurs d'avenir, c'est la vie est une question d'opportunité et il faut absolument les saisir si on veut en faire quelque chose. Et finalement, le rêve entrepreneurial, c'est un peu ça.
Et c'est déjà l'heure de conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Un merci très particulier à tous ceux qui ont eu la patience d'attendre cet épisode 2 pendant plusieurs semaines. Mais cette fois-ci, c'est promis, on revient la semaine prochaine et on revient les semaines suivantes. Et la citation qui conclura cet épisode aura justement trait à ce type de relancement de projet. Elle n'est pas d'un entrepreneur, pour une fois, elle est de Napoléon. Et c'est la suivante. Notre plus grande gloire n'a pas été de ne pas tomber, mais de savoir nous relever. Notre plus grande gloire n'a pas été de ne pas tomber, mais de savoir nous relever. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.